What do we want?
Bonjour à tous et à toutes, on est aujourd'hui réunis pour un nouvel épisode de La Popeline. On sera ensemble pour 3 épisodes de la série Cuirez-vous qui aborderont des thèmes LGBT. Moi c'est Chloé, j'ai 27 ans, je suis asexuelle et panromantique.
Moi je m'appelle Sarah, je suis non-binaire, homosexuelle et fucking queer.
Moi c'est Amélie, j'ai 24 ans et je suis bisexuelle.
On a décidé de se regrouper entre nous dans un cadre safe pour discuter de tous ces sujets. Attention, ça ne veut pas dire qu'au quotidien, tous vos amis queer vous doivent un exercice de pédagogie gratuite constamment. Ce dont on va parler aujourd'hui, ce sont nos propres vécus, nos propres expériences et nos propres ressentis. Ça ne veut absolument pas dire que cela s'applique à toutes les personnes asexuelles, bisexuelles ou non-binaires.
Bien sûr, une liste de sources bibliographiques vous sera proposée pour chaque épisode, pour vous documenter et pour devenir des meilleurs alliés. What do we want?
Freedom. When do we want it now? Épisode 1, la sexualité.
Donc nous sommes présents pour ce premier épisode pour parler de la sexualité en présence de Chloé. Est-ce que tu veux bien nous partager ton expérience et en dire un peu plus ?
Alors oui, je me suis rendu compte il y a quelques mois que j'étais asexuelle. Ça m'a pris aussi longtemps parce que je savais depuis quelques années qu'il y avait quelque chose qui n'était pas normé chez moi. Mais j'avais pas les mots, j'avais pas les concepts et je savais pas exactement ce que ça voulait dire asexuelle ou bien disons que j'en avais une définition tronquée. Et c'est en lisant un bouquin écrit par une auteure asexuelle qui s'appelle Ace d'Angela Chen, et on vous donnera la référence bibliographique, que j'ai enfin compris ce que c'était et surtout que ça s'appliquait à moi. Et qu'est-ce que ça veut dire d'être asexuelle selon moi, ça veut dire qu'on ne ressent pas, ou en tout cas très rarement, de désir sexuel. Donc ça ne veut pas forcément dire qu'on n'a pas de libido, certains en ont, certains pas. Ça veut dire qu'on n'a pas envie d'agir sur cette libido avec quelqu'un d'autre.
Donc, tu disais que certaines personnes asexuelles ont de la libido et d'autres pas. Est-ce que tu peux développer un peu toute la variété qui existe ?
Ouais, tout à fait. Il y a des gens qu'on appelle sex averse. Ça veut dire qu'ils sont vraiment dégoûtés, entre guillemets, par le sexe. Ça ne les intéresse vraiment pas du tout. Et ils ne peuvent pas du tout s'imaginer dans un acte sexuel avec quelqu'un d'autre. Il y a des gens qui sont sex-neutral, donc qui s'en foutent un peu, en fait. Ça leur fait ni chaud ni froid, ça les dégoûte pas, ils peuvent accepter d'avoir des relations sexuelles pour d'autres raisons que le désir. Par exemple, faire plaisir à quelqu'un. Et il y a des gens asexuels qui sont sex-positives, c'est-à-dire qu'ils vont avoir aucun problème à avoir régulièrement des rapports sexuels, mais pour autant, ils ont tout de même pas de désir d'en avoir. Moi, si je devais me situer, je dirais que j'ai une libido, donc par exemple, je me masturbe régulièrement. C'est juste que j'ai pas envie spécialement d'avoir des relations sexuelles avec quelqu'un d'autre. Et si je suis en couple, je peux accepter de le faire, ça me dérange pas. Mais c'est sûr qu'il faudra pas me demander de le faire tous les jours non plus, quoi. Donc je dirais que je suis sex neutral pour moi, sex positif pour les autres. C'est-à-dire que je suis quand même une militante. Pour qui c'est important qu'on parle de sexe, qu'on démystifie tout ce qu'il y a autour et que les gens puissent avoir la sexualité qui leur plaise. Donc voilà.
Moi j'avais une question du coup, est-ce que c'est pas un peu à contre-courant de pouvoir parler d'asexualité et de dire qu'en fait tu peux accepter une espèce de transaction sexuelle et consentir à ça alors que là l'accent féministe est mis sur la notion de consentement?
Ouais, c'est une super bonne question et en fait... Angela Chen, dans son livre, elle développe un peu ce que les gens asexuels peuvent informer sur le consentement. Et elle explique qu'il y a plusieurs degrés de consentement. Il y a la coercition pure, où là, tu exprimes que tu veux vraiment pas. Ou l'absence de réaction quand tu es tétanisé, ce qui conduit à un viol. Tu as le consentement enthousiaste, c'est-à-dire « oui, je veux coucher avec toi, puis je te le répète, et voilà ». Mais ce consentement enthousiaste, il ne peut pas s'appliquer aux gens asexuels, puisqu'ils n'ont pas le désir de le faire. Et donc c'est là où en fait quelque part les gens asexuels peuvent donner une définition un peu plus un petit peu plus fine. Et il y a deux autres niveaux, c'est je consens à le faire mais parce que on m'a quand même mis de la pression émotionnelle, psychologique, donc ça c'est pas du vrai consentement. Ou j'ai pas un consentement enthousiaste parce que j'ai pas follement envie de le faire, mais je ne suis pas non plus forcée. Par exemple, ça peut être je suis en couple avec une personne allosexuelle, donc quelqu'un qui n'est pas asexuel. Et je sais que c'est important pour lui ou pour elle d'avoir de temps en temps des rapports. Ce jour-là, parce que je suis d'humeur plus tactile, plus tendre, et ça ne me dérange pas de faire ça dans le sens d'être plus proche de cette personne, je vais pouvoir le faire, quoi.
Et du coup, j'ai l'impression que là, tu mets des mots sur un vécu qui peut aussi arriver à des personnes qui ne sont pas asexuelles, par exemple d'être en couple. Parfois, on n'est pas toujours à fond dans le désir pour l'autre, mais on peut accepter un rapport, même si on n'a pas beaucoup de désir, sans forcément empiéter sur son consentement, j'ai l'impression.
Oui, oui, tout à fait. Je pense que ça peut tout à fait des choses qui informent les rapports entre personnes allosexuelles. La différence, c'est que, par exemple, pour moi, ça sera toujours cette situation-là, puisque j'ai pas le désir d'avoir un rapport sexuel avec quelqu'un d'autre. Mais effectivement, c'est une très bonne remarque.
Je trouve ça, ce mise au point, vraiment intéressant et super important, parce que du coup, ça recentre la notion du consentement dans les rapports et que ça montre que, en fait, le consentement est encore mal connu et qu'il est encore le temps d'y travailler dessus et qu'il n'est pas en opposition avec les personnes asexuelles.
Mmh, tout à fait. Et en fait, au moment où j'ai fait ce que j'appelle mon coming in, c'est-à-dire que je me suis dit à moi-même que j'étais asexuelle avant de le dire aux autres, j'ai eu des moments pas très chouettes où j'ai revécu dans ma tête des souvenirs et des rapports que j'ai eus, et je me suis dit, mais justement, cette question du consentement, je me suis questionnée, en fait, est-ce qu'on m'a pas, on n'a pas abusé de moi, en fait, dans le passé? Et je pense que si, comme beaucoup de femmes, j'ai été victime d'abus, mais il y a aussi des relations qui étaient pas du consentement enthousiaste, mais qui pour autant n'étaient pas des viols, quoi.
Ouais, j'ai l'impression que c'est, comme disait Sarah, super utile de remettre les points sur les i là-dessus, parce que ça aide aussi pour tout le monde, de faire le tri dans les rapports qu'on a pu avoir et de savoir, de se retrouver dans cette zone floue, là, du consentement. Et
tout à fait. Je pense que ça illustre bien le besoin qu'il y a de communiquer quand on est en couple. Parce que, moi, une des grandes difficultés, c'est si je me dis, par exemple, je suis avec une personne allosexuelle et puis j'essaie de lui expliquer ça, que c'est pas parce que j'ai pas de désir pour lui ou pour elle qu'il va me forcer. Ça va demander, je pense, là pour l'instant je suis célibataire, mais beaucoup de communication, en disant j'aurais jamais vraiment envie, mais pour autant ça sera pas, tu vas pas forcément tout le temps me forcer, ça peut arriver, mais ça sera pas forcément le cas.
Mais du coup, tu parles de perspective de te mettre en couple, est-ce que tu te situes où au niveau affectif?
Ouais, c'est une super bonne question aussi, parce que ça, il y a beaucoup de gens qui confondent un peu les notions de asexualité et aromantisme. C'est-à-dire qu'être asexuel, c'est avoir une absence de désir sexuel, mais ça ne dit rien sur l'aspect affectif, sur l'aspect romantique. Il y a des gens, par exemple, qui sont asexuels et aromantiques, c'est-à-dire qui n'ont pas de désir sexuel et qui n'ont pas du tout de désir non plus d'être dans une relation romantique. Il y a des gens qui sont aromantiques mais allosexuels, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas de désir de connexion, ils ne tombent pas vraiment amoureux, mais le sexe, c'est cool pour eux. Moi, je suis asexuelle, mais je ne suis pas aromantique, c'est-à-dire que je tombe très très souvent amoureuse, j'ai vraiment un cœur d'artichaut, c'est assez pénible. et je me définis comme étant pas romantique, c'est-à-dire que je peux lier des rapports affectueux et romantiques avec tout le monde, peu importe son genre.
Est-ce que je vais peut-être poser une question un peu genre avocat du diable, ou je sais pas là, mais on est là pour discuter. Est-ce que c'est pas le cas de plein de mecs hétéros d'être genre aromantiques et d'aimer le sexe?
Ouais, c'est une super bonne question. Il y a justement un passage dans ce bouquin génial que vraiment vous devez tous lire, Ace, où l'autrice plutôt interroge un mec qui est aromantique et qui n'est pas asexuel et qui se pose lui-même cette question-là en disant, est-ce que finalement je suis pas une espèce de prédateur qui se donne comme excuse d'être aromantique. Et effectivement, c'est un stigma qui peut peser sur les personnes aromantiques. Et je dirais que comme tous les termes militants, quelque part, ils peuvent être utilisés à tort, instrumentalisés par des gens. De la même façon qu'il y a des mecs hétéros qui vont se dire alliés du féminisme juste pour pécho des meufs. Effectivement, le terme aromantique peut être utilisé comme ça, mais je pense pas que ça l'invalide du tout, quoi.
Oui, c'est ça, je supposais bien ça, en effet. Mais ce que je me demandais, c'est du coup, est-ce que c'est une expérience différente en tant que meuf ou en tant que mec d'être aromantique? Enfin, toi, tu n'es pas aromantique, du coup, mais je me demandais si ça avait des différences au niveau social, quoi.
Bah, j'imagine qu'il y a peut-être une incidence plus grande de mecs aromantiques, dans le sens où les personnes qu'on a assignées au genre féminin sont élevées dans l'idée qu'elles doivent prendre soin des autres, qu'elles doivent aimer, etc. Donc peut-être qu'il y a quelque part cette donnée sociale, environnementale qui vient s'ajouter. Mais je n'ai pas de réponse formelle à ça. Comme je ne suis pas aromantique, je ne sais pas ce que c'est de l'être et si c'est différent. Mais sans doute, j'imagine que soit dans les faits, il y a plus de mecs aromantiques ou soit ils se déclarent plus facilement aromantiques parce qu'il y aura un stigma de plus sur les femmes en disant non seulement tu es une mauvaise femme parce que tu es asexuelle et puis en plus, tu n'aimes pas les gens. Non mais franchement, quel échec.
Sorcière.
Sorcière.
Mais du coup, Chloé, tu es asexuelle, mais est-ce que tu te considères comme queer ? Qu'est-ce qui fait que l'asexualité peut se retrouver dans la lutte LGBT ?
Ouais, c'est une bonne question. En fait, je m'étais demandé, pour le coup, moi je suis pas romantique, mais si j'étais hétéro-romantique et que, en tant que meuf cisgenre, si je relationne qu'avec des hommes, est-ce que je suis vraiment queer s'il y a que ça qui me différencie des meufs hétéro-allosexuelles ? Et en fait, ma réponse, c'est que ouais, je pense que moi, je me considère comme étant queer, bah déjà parce que je suis pan, mais aussi parce que pour moi, la queerness, c'est genre les gens qui sont pas dans l'hétéronormativité et qui vont subir une oppression à cause de ça. Et pour moi, l'hétéronormativité, c'est aussi la contrainte à la sexualité. D'autant plus quand on est une femme et sans doute quand on est un mec gay, mais ça, on y reviendra. Et donc, ouais, pour moi, je suis queer parce que mon asexualité me fait sortir de l'hétéronormativité et me rend queer, quoi. Bizarre.
Du coup, Chloé, moi, je me posais la question de... Est-ce que ça te fait pas vraiment, au fond, chier de te dire que t'es féministe et qu'au final, tu représentes un peu dans l'imaginaire collectif le cliché de la femme qui n'a pas de désir sexuel et qui est une proie aux hommes prédateurs désireux de sexe pur, comme on peut le qualifier de manière viriliste.
Ouais, ah, c'est une super question. En fait, je crois que c'est un des trucs qui m'a empêchée de me définir comme asexuelle pendant super longtemps. Parce que, et c'est important pour moi de continuer à dire que je suis sexe positive, c'est juste, ça n'a rien à voir en fait, le fait que je sois asexuelle ou pas par rapport à ça. Et ouais, et en plus, moi, je suis une féministe pro sex workers et tout, donc je suis vraiment pas dans cette dynamique de... Le sexe, en tout cas le sexe hétérosexuel, est toujours une contrainte. Et, non, je ne suis vraiment pas dans ce délire-là. Beau lapsus. et donc, oui, c'est une très bonne question. Je me suis demandé, en fait, s'il n'y avait pas... est-ce que c'est mes traumas qui parlent et qui fait que finalement, j'ai plus de désir sexuel ? Est-ce que je suis née comme ça ? Qu'est-ce qu'il en est ? Est-ce que ce n'est pas une réponse à l'oppression et aux violences sexuelles qui me fait penser ça, mais je me dis que quelque part je suis une assez bonne féministe, je suis une assez bonne militante, je sais ce que je pense, que ce pourquoi je me bats et voilà.
Et est-ce qu'au final c'est pas plutôt la société qui veut que tu te définis, c'est pas toi qui te définis, parce que tu dis que tu as cherché longtemps la raison, mais au final t'as pas de raison à donner à personne,
c'est
parce
ça.
Que c'est ce que tu ressens au fond de toi et je pense que c'est ce qui doit le plus importer, non ?
Mais c'est exactement ça, je me suis dit au final, peu importe la raison pour laquelle je suis asexuelle, c'est comme ça que je me vis en ce moment. Et le mot, il sert juste à ça, à m'outiller pour pouvoir expliquer mon expérience du monde. Et finalement, si dans 10 ans, 15 ans, je me rends compte que j'ai bougé sur le spectre de la sexualité, que je suis soit sexe positive en ce qui me concerne moi-même, ou plus, ben c'est pas grave, là. C'est pas grave.
Ouais, c'est ça. Et je voulais rebondir sur ce que tu disais, sur les traumas et tout. Enfin, je veux dire... Quelles que soient un peu les différentes orientations qui existent et tout ça, on n'a jamais à se justifier de toute façon. Enfin, je veux dire, quand bien même il y aurait des gens pour qui c'est à l'origine ça vient d'un trauma ou quoi, elles sont tout à fait légitimes aussi. Enfin, voilà, c'était juste ça, sur ça que je voulais rebondir.
Ouais, je suis super d'accord avec ça. Et juste pour rebondir, souvent, encore maintenant, les psys et les autres médecins, ils vont prendre... Si on parle de notre asexualité comme étant quelque chose qu'on doit soigner, en fait, que c'est un trouble de l'humeur ou quelque chose qu'on pourrait soit soigner par thérapie, soit avec des médicaments. Et ça, c'est déjà de l'un, c'est super violent. Et il faut. Enfin, je pense qu'il n'y a pas de souffrance inhérente au fait d'être asexuelle, en fait. Ce qui me fait souffrir, moi, au quotidien, c'est qu'on me renvoie au fait que je ne suis soit pas une bonne féministe, comme tu l'as relevé, soit pas une femme normale, parce que ça ne m'intéresse pas tellement d'avoir des orgasmes de ouf, qui est soi-disant un pouvoir féminin. ou que j'ai raté ma vie parce que je ne serai jamais mariée avec plein d'enfants. Ça encore, on n'en sait rien, hein, déjà. Mais qu'on pense que les gens asexuels ne finissent pas en couple heureux et que la fonction d'une femme dans la société, c'est quand même encore dans l'imaginaire collectif d'être un être reproducteur. Donc, voilà, c'est la société, en fait, qui me fait du mal, pas le fait d'être asexuelle. Donc, il n'y a rien à soigner chez moi.
Mais je trouve ça intéressant que tu parles de la psychologisation des personnes asexuelles, parce qu'au final, on se posait la question tantôt de qu'est-ce qui fait que les personnes asexuelles sont queer. Bah justement, je pense que c'est un point qui centre un peu toutes les personnes queer, quelle que soit leur orientation, etc. Bon, en fait, à tout moment, je pense que les personnes queer font face à de la psychologisation de la société et à trouver des raisons à ça, des causes à ça, qui sont soit biologiques, soit psychologiques, alors qu'au final, on veut juste exister.
Exactement, on veut juste qu'on nous foute la paix, tu sais.
Bah, du coup, Chloé, je voulais te demander s'il y avait un top 5 des trucs qui t'énervent le plus au niveau des stéréotypes sur la sexualité.
Je sais pas si je vais en trouver 5, mais le truc qui m'énerve le plus, c'est juste que t'es frigide. Genre, alors
T'es
non,
prude, Chloé.
je suis pas prude ni frigide. D'ailleurs, quand je me masturbe, je me donne des orgasmes toute seule. J'ai pas de souci avec ça. J'ai juste pas envie de coucher avec les gens et j'aime autant manger une pizza ou un pot de glace que d'avoir un
On
orgasme.
peut comprendre.
Un autre truc qui m'énerve vraiment beaucoup, c'est oui, mais c'est parce que t'as pas trouvé le bon. Oh. Alors déjà, est-ce que c'est le bon, hein?
Oh mon Dieu.
Et puis comme je disais, en plus c'est chiant parce que admettons je tombe amoureuse demain et cette personne, au bout d'un moment, ben j'ai plus de relations sexuelles qu'avant. Quelque part, les gens vont être là genre, tu vois, je te l'avais dit. Et ça c'est vraiment insupportable, insupportable. Donc non, c'est pas une question d'avoir trouvé le bon ou pas. Et puis voilà, c'est comme le reste, c'est un spectre et c'est fluide et puis les gens évoluent quoi ou pas.
Parce qu'on ne veut pas comparer ça à, tu sais, à un gâteau qu'on mange et se dire, bah, en fait, moi j'aime bien manger mon gâteau à seul et j'ai pas envie de partager mon gâteau quoi, à tout prix avec les gens et se dire, du coup, il n'y a pas une bonne personne avec qui partager mon gâteau, je veux juste le bouffer seul et puis c'est tout. Laissez-moi tranquille avec mes orgasmes.
Excellent, excellent. Mais ouais, vraiment, qu'est-ce qui m'énerve d'autre?
J'ai un truc auquel je pense.
Vas-y.
Est-ce que, enfin, tu vas peut-être développer, je sais pas. Est-ce que du coup, à l'adolescence et tout, on vit différemment la pression à la sexualité, j'imagine. Et j'imagine que ça peut aussi avoir des conséquences négatives.
Ouais, moi j'ai commencé à penser au sexe et à quand moi j'allais devoir m'y mettre assez tôt. Je le vivais vraiment comme un calvaire, quoi. J'y pensais, quand j'ai commencé à avoir 14-15 ans, j'y pensais vraiment souvent en mode waouh, va falloir que je fasse amour à quelqu'un, quoi. Et j'avais peur, enfin, c'était une grosse pression. Et d'ailleurs, en fait, finalement, je l'ai fait assez tôt. J'avais 15 ans, donc ce qui est dans la moyenne, mais voilà.
Moi aussi, t'inquiète.
Non, mais il y a des gens qui le font plus tard et dans l'idéal, maintenant, j'attendrai. Ou alors, je le ferai même jamais. Mais je l'ai fait parce qu'il fallait absolument que j'arrache ce bandage, que ça soit fait. Et je l'ai fait avec un inconnu. C'était vraiment naze, quoi. Et voilà, juste parce que je sentais qu'il y avait quelque chose chez moi qui n'en avait pas vraiment envie et que c'était pas normal. Et à l'adolescence, on a besoin de se définir par le regard des autres, d'être accepté, de faire la même chose. Donc ouais, il y avait une énorme pression là-dessus, clairement. Sinon, c'est pas vraiment un cliché qui m'énerve, mais c'est que me rendre compte que je suis asexuelle, ça a donné du sens à des expériences dans ma vie, dans le sens où j'ai encore aujourd'hui beaucoup de mal à mettre une classification entre mes relations qui sont vraiment romantiques et mes amitiés très fortes. Je suis quelqu'un qui a tendance à vouloir nouer des relations humaines profondes, et donc souvent quand je deviens amie avec des gens, c'est très très ami. Et comme ben, le sexe chez moi, c'est pas un critère de distinction, de fait, je me suis posé beaucoup de questions. Donc comment on fait pour savoir si ça c'est de l'amour ou si ça c'est juste de l'amitié? Et je me rends compte que c'est pas grave s'il n'y a pas de réponse claire pour certaines relations. C'est pas grave en fait. On n'est pas obligé de suivre un schéma, de hiérarchiser, de dire ça c'est mon mec ou ma meuf et puis ça c'est mes potes. On peut avoir, si on n'est pas monogame en tout cas, on peut avoir des relations comme ça. Sans règle, en fait, un peu de l'anarchisme, et se dire, cette personne-là, je l'aime, et Cette personne-là, j'ai pas forcément envie d'être physiquement intime. Cette personne-là, un peu plus, même si du coup, j'ai pas de relation sexuelle, mais je peux vouloir l'embrasser, etc. Est-ce que ça te rend une des personnes plus importantes que l'autre? Ben non, pas forcément.
Je sais pas si tu es OK de parler de ça et tout, mais est-ce que du coup, ça te fait aussi réfléchir sur les questions de relations libres, de polyamour et tout? Enfin, j'imagine que ça peut avoir un lien.
Ouais, tout à fait. Je pense que comme dans n'importe quelle orientation sexuelle, on peut être soit monogame, soit pas. Mais c'est clair que toute cette réflexion-là, ça m'a montré que, en tout cas moi, en ce qui me concerne, j'aurais pas de problème à être monogame si c'est important pour une personne avec qui j'ai un lien affectif fort et avec qui je veux rester, je veux vivre, etc. Mais pour moi, c'est pas du tout important. Genre, j'ai aucun problème à imaginer être polyamoureuse. Encore que j'aime pas trop ce terme, moi je suis vraiment plus dans le... Ça me dérangerait pas de juste pas mettre de règles, genre d'être dans la communication, de définir ce qui nous va à chacun, mais soit que ça soit étiqueté, et sans qu'il faille dire ok, ça c'est mon mec numéro 1, ça c'est ma meuf, et ça c'est mon mec numéro 3, non, enfin...
Est-ce que pour toi c'est un peu l'anarchie relationnelle du coup?
Ouais, c'est ça, je crois que c'est vraiment ça plutôt.
Mais je trouve ça intéressant tout ce que tu dis, parce que j'ai l'impression qu'on est dans une société où le sexe est vraiment primé, et c'est vraiment fort présent, et dans la communauté... LGBT, surtout dans l'homosexualité, cette pression à la sexualité est exacerbée dans le sens où on pourrait imaginer une personne asexuelle, homosexuelle, surtout si c'est une personne, si c'est un homme. Donc c'est un peu un rejet d'une société, je pense, que peut-être confronter les hommes homosexuels et les femmes homosexuelles asexuelles. Donc ça montre à quel point on est dans une société qui est un peu... décadente d'une certaine manière, ou parce que on a cette pression à la sexualité, et à la fois dans la communauté queer c'est encore plus compliqué parce que cette communauté queer est stigmatisée de par sa sexualité. Donc on a l'impression que au final on est en train d'exacerber quelque chose qu'on nous reproche, comme si les personnes queer étaient des malades sexuellement. Et donc c'est un peu ce paradoxe là et je pense qu'en tant qu'asexuel ça doit être difficile de se situer là-dessus. T'en penses quoi?
Ouais, c'est une très bonne remarque, mais je pense que comme tu le dis, en fait les gens queer et d'abord les personnes homosexuelles ont été stigmatisées pour leur pratique sexuelle, et que du coup il y a une espèce de, je pense, de dynamique de inversion du stigma et de se réapproprier ça et de du coup de célébrer les relations sexuelles homosexuelles. Et c'est très très bien, sauf quand en fait on va tellement loin qu'on est incapable de se rendre compte que c'est pas forcément la seule voie, et que par exemple on peut être homoromantique et asexuel, et que c'est pas une personne homosexuelle ratée ou malade ou qu'il y a un truc qui va pas, que c'est possible. Et je pense que on parlait tout à l'heure de polyamour. Je pense qu'il y a ça aussi dans les milieux queer qui sont super sexpositifs, mais du coup, tu as quand même un peu le sentiment en filigrane que si toi, t'es pas hyper sexuel, ben t'es pas libéré et t'es pas vraiment une bonne personne queer, quoi. C'est vrai que c'est très juste. Et je crois que cette injonction à la sexualité, elle est là partout dans la société, qu'on soit hétéro ou pas. Mais c'est triste, évidemment, que dans le milieu queer, on puisse assez peu réfléchir à ça.
Ouais, bah, ça me faisait penser, c'est un peu comme quand t'es bi, souvent, tu dois un peu... prouver que tu as déjà eu des relations avec des personnes des deux genres et tout. Et du coup, j'imagine que quand tu n'es pas bisexuel mais biromantique, ça doit être encore autre chose pour pouvoir être connu par les autres dans son orientation et son attirance.
Ouais. Et d'ailleurs, moi, jusqu'à assez récemment, je pensais que j'étais hétéro parce que je ne différenciais pas l'orientation sexuelle et l'orientation romantique, comme la plupart des gens, en fait. Et je me disais, quelque part... puisque c'est le avec qui je fais du sexe qui définit mon orientation tout court, et que je me suis toujours quelque part un peu forcée à avoir des relations sexuelles avec les personnes avec qui j'étais en couple, et que quand c'était avec des hommes ça me paraissait évident, inquestionnable, et que jamais un mec voudrait être avec moi si je couche pas avec lui, et que du coup je me suis même pas posé la question avec les femmes, parce que pour moi c'était genre t'aimes pas le le sexe avec les hommes ne t'aimera pas celui avec les femmes. Et that's it, tu vois, j'ai jamais réfléchi à mon orientation romantique si j'étais attirée émotionnellement par les femmes. Et il a fallu commencer à défaire ces nœuds pour me rendre compte que si, en fait, que j'ai même déjà été amoureuse de filles. Et donc, pour être tout à fait cas, j'ai jamais eu de relation sexuelle avec une fille, mais je sais que je suis pan parce que j'ai déjà été amoureuse d'une fille et que ça n'a aucun sens pour moi. De toute façon, je vais sans doute pas aimer le sexe avec une fille puisque je suis asexuelle et ça change rien. Je sais pas si ça répond à ta question, mais ouais, c'est ça.
C'est très clair.
Mais en gros, moi, je me dis, c'est assez logique que les gens comprennent pas forcément parce que quand t'es allosexuelle, donc normée, on va dire, tu te poses pas la question parce que le sexe, l'attirance, l'amour, tout est imbriqué les uns dans les autres. Quand t'es asexuelle, ça l'est pas. Moi, je tombe amoureuse et puis j'ai pas de désir. Et donc là, mon expérience me permet de me rendre compte que c'est des choses séparées. Et je trouve ça quelque part assez enrichissant. Et j'avais eu cette conversation avec une personne transgenre où elle me disait, mais comment tu sais que t'es une femme cisgenre? Et je dis, j'en sais rien. Mais j'en sais rien pourquoi, parce que j'ai jamais dû y penser. On m'a assigné le genre féminin à la naissance et je m'identifie comme ça. Donc c'est une non-question dans ma vie. Alors que quand t'es transgenre, j'imagine que tu te rends compte que ton genre assigné à la naissance n'est pas le tien. Eh ben, tu te poses la question et donc tu dois trouver des raisons. Et donc c'est un peu la même chose pour moi, si je peux faire un parallèle. Moi, je me suis rendu compte de ce que c'était peut-être plus finement l'amour et l'attachement qu'une personne allosexuelle.
Je trouve ça très intéressant ce que tu dis par rapport au fait de prendre cet exercice mental de se situer dans où on se situe au niveau affectif, au niveau sexuel, au niveau du genre aussi. Parce que ça me rappelle une discussion que j'avais eue avec mes colocs et on s'était dit, allez, on va placer un peu où on se situe au niveau maleness, femaleness, etc. Mmh. Et moi, en tant que non-binaire, j'étais un peu perturbé de voir que certaines personnes se définissaient au genre opposé à leur naissance plus que moi. Et j'étais en mode, c'est normal parce que si on se pose pas, on se réfléchit pas, on se situe pas, c'est aussi les personnes peuvent être surprises d'apprendre que on se situe pas forcément là où on pense être parce que c'est une réflexion difficile à avoir et qu'au final on nous apprend pas forcément à l'école non plus à se situer parce qu'on nous apprend qu'il y a qu'une réalité, c'est être une personne cis hétérosexuelle, l'hétéronormativité de base.
Exactement.
Ouais, mais c'est ça, mais des fois je me demande vraiment quel monde ce serait si tout le monde prenait le temps de réfléchir à ça, genre est-ce qu'il resterait des cis hétéros ou pas?
C'est ça, finalement, le patriarcat, c'est quelque part... Il y a des gens pour qui, j'imagine, c'est entre guillemets naturel dans le sens où ça vient tout seul, mais c'est aussi maintenir quelque part par la contrainte cette norme-là. Et donc, si on la déconstruit, est-ce qu'il en restera?
Bonne question. C'est ça, au final, en fait, on nous étiquette de minorité silencieuse, de minorité tout ce que vous voulez.
Mais est-ce qu'on est minoritaire? Mais en fait, est-ce qu'on est, c'est
ça? Non, mais pour moi, c'est une vraie question de savoir, parce que je me dis, c'est quand même possible qu'une personne hétéro réfléchisse à son orientation sérieusement, profondément, remettent en cause plein de choses, mais aboutissent quand même à la conclusion qu'elle est quand même hétéro. Donc
oui, je pense. Hein.
Voilà, parce qu'après, sinon, on part dans un truc où on peut nier l'inverse et dire...
Ouais, non, moi, je suis pas dans ce truc-là. Je pense qu'il y a des gens qui sont vraiment sincèrement hétéro. Ça n'a aucun sens, dit comme ça, mais je crois qu'on comprend ce que je veux dire. Je vous jure, je vais
pas trop loin.
Mais pour autant, est-ce que ça veut... Est-ce que, par contre, le reste de l'hétéronormativité, la contrainte à la monogamie, au fait d'avoir des enfants ou pas, et d'avoir du sexe beaucoup tout le temps, et comme on fait à la télé, est-ce que ça ne disparaîtrait pas? Peut-être.
Et donc, Chloé, est-ce que tu pourrais nous parler des revendications plus politiques des personnes asexuelles?
Bon, alors là, je vais parler pour moi, plutôt que pour toute la communauté, mais moi, mes principales revendications, ça serait, on en a un peu parlé, mais qu'il n'y ait plus de violence aux personnes... asexuelles dans le sens médical, qu'on ne dise pas aux personnes asexuelles qu'elles doivent être soignées, peu importe comment. Sauf si la personne dit « En fait, je ne suis pas asexuelle, j'ai juste un problème et que là, je veux être soignée. » Mais genre, chacun se définit comme il veut. Mais en tout cas, les gens qui se disent asexuels, on ne les stigmatise pas médicalement, qu'on ne les psychiatrise pas. J'aurais aussi peut-être des revendications, mais qui, quelque part, vont un peu avec le féminisme en disant... c'est absurde que par exemple, les régimes matrimoniaux soient plus avantageux si tu es en couple que si tu es célibataire. C'est pas juste qu'en tant qu'être humain, quelque part, tu sois discriminé au niveau de tes revenus, etc., parce que tu ne te mets pas en couple. Ou que les seuls gens qui ont des droits par rapport à toi et ton patrimoine, ça, c'est tes enfants. Vraiment déconstruire cette espèce de, d'obligation à la famille ou que les gens qui veulent se marier, avoir des enfants et qu'ils héritent puissent toujours le faire. Hein. Je ne dis pas qu'il faut interdire ça, mais qu'il y ait d'autres modèles qui soient possibles. Et ça va, par exemple, avec l'individualisation des droits sociaux, que le fait que tu sois en couple ne détermine en rien à quoi tu as droit. Ça peut être aussi... qu'il y ait d'autres régimes matrimoniaux, même si du coup le nom n'a plus de sens, mais que le mariage. Par exemple, je ne sais pas, on pourrait se mettre en union à plusieurs personnes, why not? Le Pax, par exemple, en France, permet de se mettre en régime ensemble si on est juste amis. Mais il faudrait que ça soit, pour moi, étendu à d'autres modèles. Voilà, et ce sera plus des revendications politiques, mais au sens représentation. J'aimerais vraiment avoir des modèles asexuels dans les médias auxquels je peux m'identifier. Il y en a quelques-uns, mais soit ils sont très mauvais, ou soit il y en a vraiment très peu. Et qu'on arrête en fait de bombarder les enfants et même les adultes de cette injonction à l'amour romantique et au sexe. Et à la... Mais ça va avec le reste du mouvement féministe, quelque part, et cuir aussi.
Parce que cette propagande, quelque part, elle a des conséquences super tangibles. Et c'est pour ça qu'il y a des gens qui, comme moi, mettent 27 ans à savoir qui ils sont, parce que c'est juste pas une option. Notamment...
Un truc avec cette histoire de hiérarchisation où tout dans la société tourne autour du couple romantique et que l'amitié, c'est censé être moins important et on est censé donner moins de temps et moins d'importance à nos relations, entre guillemets, platoniques. Et c'est un truc que j'ai toujours pas fini de démêler, je crois, mais qui n'a... Déjà, premièrement, jamais fait sens pour moi, et maintenant je comprends pourquoi, mais surtout, dans le passé, a pu me faire souffrir. J'ai souvent de développer à des moments de ma vie des relations très très fusionnelles avec une ou deux personnes, plus facilement des femmes d'ailleurs, et au bout d'un moment, cette fille s'est trouvée un copain, et je me suis sentie vraiment comme si j'étais en train de vivre une rupture, parce que d'un coup, c'est comme si j'avais été déclassée, quoi. On passait toute notre vie ensemble, et puis voilà, je deviens beaucoup moins haut dans la liste des priorités. Donc à ça, je me suis demandé, mais tiens, mais pourquoi en fait ? Parce qu'elle a un mec, maintenant je suis plus aussi importante. Je pense qu'à une époque, je me suis vraiment renfermée émotionnellement et je faisais le choix conscient de rester seule parce que je me disais, puisqu'il y a quelque chose qui va pas chez moi, je peux pas infliger à quelqu'un d'être en relation avec moi et ne pas lui donner de sexe comme si c'était quelque chose qui était absolument dû à mes partenaires. Et je pense que voilà, au fil de ma déconstruction toujours en cours féministe et de mon coming in, je me suis dit mais tout ça c'est vraiment des conneries, on doit jamais ça à personne. Et puis j'ai aussi quelque part la chance de pas être spécialement attachée à la monogamie, donc j'imagine que c'est plus simple de se dire voilà, moi je m'en fiche si mon mec ou ma copine couche avec d'autres gens et va trouver ça qui est nécessaire si il ou elle est allosexuel avec quelqu'un d'autre. Et ça ne veut pas dire que notre relation aura moins de valeur ou qu'elle sera moins centrale dans nos vies. Donc ça, c'est déjà ça. Et puis surtout, je me rends compte avec le recul qu'il y a plein de fois où j'ai saboté des relations inconsciemment parce que j'étais bien, j'étais amoureuse, mais je sentais que au bout d'un moment, ça allait se voir, que je me forçais à avoir des rapports ou bien simplement qu'à un moment, je n'en pouvais plus, je ne pouvais plus me forcer à faire ça. Et donc je fuyais quelque part avant qu'on s'en rende compte et je me dis que maintenant je vais enfin pouvoir peut-être vivre tout ça beaucoup plus sereinement, donc c'est une délivrance quelque part. Et genre j'aimerais bien qu'on reconnaisse d'autres formes alternatives de vivre ensemble. Il y a d'autres façons de faire famille, de faire communauté. Moi par exemple, je voulais pas d'enfants, mais en fait ce que je voulais pas surtout c'est le cadre qui va avec. Je voulais pas mon petit mari, ma petite maison et mes gosses, et je voulais juste pas le cadre hétéronormé. Et maintenant, je me dis, j'aurais bien des enfants, mais est-ce que je pourrais les élever avec toute une communauté de gens comme moi, quoi, par exemple ?
Mais ça me fait penser à des choses que j'avais déjà pu lire sur des familles avec des couples polyamoureux, on va dire. Et il y en a qui se décident vraiment, adultes, à habiter à plusieurs, à avoir une grande maison. D'ailleurs, ils partagent plein de choses et ça peut être chouette. Mais par contre, il y a quand même de forts... une forte stigmatisation. Par exemple, quand tu vas avoir des enfants, on va dire que ça donne une mauvaise image à ton enfant ou que c'est pervers comme situation. ou Mais je sais pas, mais par exemple, si tu emmènes tes enfants à l'école, déjà quand on te dit que l'enfant a deux papas ou deux mamans, mm-hmm. bof, mais si tu dis qu'il a trois papas et deux mamans, enfin, tu vois ce que je veux dire.
Bah, y a déjà ce débat-là pour les couples homosexuels, et on sait très bien que les enfants sont pas ni plus heureux ni plus malheureux. En fait, c'est juste une non-donnée, et c'est juste... Ce qui est important pour les enfants, c'est d'avoir des référents, des gens qui les aiment et qui leur offrent une structure. Et ça, peu importe qui c'est et combien de personnes c'est.
Je pense aussi que la multiplicité des repères parentaux, du coup, c'est pas ça qui va faire que l'éducation va être moins ou plus mmh. importante. Je pense que c'est vraiment le lien que crée l'enfant avec ses coparents qui vont être plus privilégiés et qui sera important. D'ailleurs, je pense que c'est aux Pays-Bas où le modèle triparent existe déjà ou était en mmh. discussion, mais
cool.
pour du coup c'était dans le cadre des mamans qui ont eu recours au PMA, il mmh. me semble, avec du coup deux mamans et un papa, mmh. etc. Donc je pense que c'est un modèle qui existe déjà et qui peut être facilement reproduisable.
Mmh. Ça me fait, enfin pour moi ça fait aussi le lien avec le côté pathologisation parce mmh. que il y a tellement un symbole psychologique des parents comme stabilité pour la famille. Et certes, il faut que l'enfant ait un bon environnement mmh. et il ne faut pas qu'il soit trop déstabilisé et tout ça. Mais la plupart du temps, on va utiliser la menace d'un mauvais développement de l'enfant pour empêcher tout changement mmh. de société au niveau du couple et de la famille. Mmh. Donc, c'est souvent un peu de la mauvaise foi, quoi.
Oui, et puis je pense qu'il y a plein d'enfants qui sont traumatisés dans des familles monogames, hétérosexuelles. Je pense que de la maltraitance émotionnelle ou physique, il y en a partout. Et je pense qu'il ne faut pas oublier non plus que c'est très, à la fois très occidental et très récent de voir le fait d'élever des enfants comme étant la prérogative de deux personnes. Il y a plein d'autres cultures où on dit ça prend un village d'élever un enfant, et ça a du sens quelque part. Et je ne pense pas que ça en fait des enfants plus malheureux. Quelque part,
En fait, c'est culturel, quoi.
C'est culturel. On va finir là-dessus. Voilà, c'est la fin de cet épisode. On espère que vous avez pu en apprendre un petit peu plus sur la sexualité ou au moins éveiller votre curiosité. On se retrouve au courant du mois de mai pour un deuxième épisode avec Sarah qui nous parlera de non-binarité.
À la prochaine fois.
Bisous, bisous. What do we want?